Chapitre 9. L'enfer, Bibliothèque apostolique vaticane. Zach ferma derrière lui la porte de l'enfer. Dans l'instant qui suivit, il déclencha le chronomètre de sa montre réglé très exactement sur 3 minutes. Depuis des semaines, il avait minutieusement programmé le temps qu'il devait passer dans la pièce secrète, répétant chaque geste avec la même précision qu'un chercheur de trésors qui plonge en apnée pour fouiller une épave. Il ne devait surtout pas laisser l'ivresse le gagner face à la profusion de trésors. Le stratagème de Zach reposait sur l'effet de surprise, le choc émotionnel. De combien de temps disposait-il avant que Genio et Guido, 2 employés exemplaires, ne doutent de sa version ? 3 minutes ? C'était la durée maximale que Zach avait estimée crédible. Il appuya sur l'interrupteur. Des ampoules à basse résolution éclairèrent l'enfer d'un halo blafard. Zach traversa le long corridor à grandes enjambées. Il se permit juste un regard de droite à gauche, sans ralentir l'allure. L'enfer ressemblait à la réserve d'une gigantesque brocante. Des dizaines de sculptures, de toiles, d'œuvres d'art diverses étaient entreposées, ne laissant aux visiteurs qu'une mince allée pour déambuler. Zach ne put s'empêcher de sourire, aussi troublé que subjugué. Ainsi, la légende disait vrai. L'enfer du Vatican n'était qu'un immense musée pornographique. La quasi-totalité des tableaux, des bronzes, des marbres représentaient des hommes et femmes nus, positionnés par les artistes dans des acrobaties sans équivoque. Prêtres sodomites, moines échangistes, saintes partouzes, papes priapiques. D'après les fantasmes des spécialistes, l'enfer du Vatican renfermait la plus grande collection au monde de livres et d'œuvres érotiques. Le butin millénaire confisqué par une église puritaine. 2 minutes 30. Malgré lui, Zach s'arrêta. Sur un immense bas-relief de marbre était sculptée une ronde d'ange enlacée. L'artiste avait muni les êtres ailés de flatteurs attributs génitaux masculins et féminins, visiblement en parfait état de fonctionnement. Le sexe des anges, pensa Zach, une preuve de plus. 2 minutes 15. Zach se secoua. Ne pas tomber dans le piège, contempler, butiner, il ne devait penser qu'à l'objectif, lui seul. Le livre d'Enoch. À force de recherches, de conversations et de lectures, Zach avait appris que le fameux manuscrit apocryphe était conservé dans la seconde partie de l'enfer, couloir sud-ouest. Zach avait passé des heures à mémoriser le plan de la pièce légendaire. Sans hésiter, il s'enfonça dans les couloirs, comme s'il avait passé sa vie à errer dans le labyrinthe. 1 minute 50. Il s'immobilisa soudain, tremblant d'excitation. Tout était véridique. Le livre d'Enoch l'attendait, dans les entrailles de l'enfer, posé quelques mètres devant lui sur un lutrin de bois sculpté. Continuez, ne surtout pas perdre une seconde. Zach tira de sa poche 2 gants de latex, puis un minuscule appareil photographique numérique, une merveille de miniaturisation qui lui avait coûté une fortune. Il se pencha sur le livre. Les fragments de manuscrits avaient été collés avec une infinie minutie sur un carton épais beige. « Les fragments des manuscrits de la mer morte », murmura Zach. Il peina quelques instants à manipuler son appareil. Ses doigts de caoutchouc glissaient sur les minuscules boutons. Il pesta. 1 minute 40. Un premier éclair blanc. Zach s'efforça de tourner sans précipitation la page cartonnée. Des gouttes de sueur froide lui coulaient le long des bras. Combien d'hommes, avant lui, avaient eu accès à ce texte ? Une poignée d'initiés. 1 dizaine, tout au plus. Un autre éclair. 1 autre page. Zach travaillait de façon mécanique, comme il l'avait prévu. Il ne pouvait cependant empêcher son esprit de vagabonder. Le livre d'Enoch était sans doute le plus célèbre des récits apocryphes. Enoch était un prophète cité dans les premières pages de la Bible, dans la Genèse. Il était le 7e patriarche d'avant le déluge, le père de Mathusalem et l'arrière-grand-père de Noé. Écarté de la Bible juive et chrétienne lors du concile de Laodicée en 364, le livre d'Enoch avait cependant continué d'appartenir au canon de l'Église éthiopienne orthodoxe. C'est d'ailleurs d'Éthiopie, en 1773, que pour la première fois, l'explorateur franc-maçon écossais James Bruce avait rapporté 3 exemplaires du fameux livre du prophète, recherché par les Occidentaux depuis des siècles. Depuis, Les originaux pouvaient être consultés à la Bodleian Library d'Oxford et à la Bibliothèque nationale de Paris, et leur traduction intégrale en tapant Enoch sur n'importe quel moteur de recherche. Par la suite, aux quatre coins du monde, à Akmim, en Égypte, dans le Michigan, aux États-Unis, on avait retrouvé d'autres fragments du livre, en éthiopien, en grec, en latin, en syriaque, en copte, attestant de l'authenticité du texte. Sauf que... Zach s'épongea le front d'un revers de manche. Une 15e page. 1:20. Zach se retenait de chercher à déchiffrer les lignes qui dansaient devant ses yeux. Il en aurait tout le loisir plus tard, chez lui, à l'abri. Il ne devait penser qu'à sa quête. Le livre d'Enoch et ses incroyables révélations depuis James Bruce avaient perdu son fabuleux statut de texte secret. Sauf que le manuscrit original, en araméen, était considéré comme perdu à jamais. Jusqu'à la fameuse découverte des manuscrits de la mer morte à Qumran en 1947. Des centaines de pages, et parmi elles, l'incroyable pépite, le premier livre d'Enoch. Cette formidable trouvaille confirma l'importance du prophète dans la littérature juive dès le début de l'ère chrétienne. Mais après 1947, jamais l'Église ne rendit public les fragments du manuscrit original, attisant ainsi les pires rumeurs, tout en les cantonnant habilement au statut de délire ésotérique. Zach s'épongea le front. 50 secondes. Il devait sortir maintenant, photographier quelques dernières pages et fuir. Tant pis pour la fin du texte. Zach feuilleta avec fébrilité les pages. Il voulait à tout prix atteindre le chapitre 58. La mythique apocalypse de Noé. Le texte mentionné par les anciens, dont jamais la preuve de l'existence n'avait été formellement fournie. Quelques éclairs supplémentaires. 30 secondes. Maintenant. Zach reposa le livre sur le lutrin, à l'emplacement exact où il l'avait trouvé. Il s'éloigna à pas rapides, en ôtant ses gants et en rangeant son appareil photographique dans sa poche. L'alarme de sa montre émit un discret carillon alors qu'il atteignait le couloir de la sortie. Il adressa un dernier regard aux anges lubriques, poussa la porte et plaqua sur sa figure le masque de sévérité qui convenait à son statut d'officier de la garde suisse courroucé.
« Je n'ai trouvé aucun autre mégot, » lança Zach. « Une chance !»
Guido était plus pâle que le marbre du couloir. Eugenio s'accrochait à son manche de balai comme au mât d'un esquif dans la tempête. Zach plaça délicatement, au bout de ses deux doigts, le reste de cigarette dans un sac transparent.
« Demain, » fit-il. « 10 heures à mon bureau, au Saint-Siège. »
Il leva le sachet devant les yeux des deux hommes et ajouta
« J'espère que nous n'aurons pas effectué des tests ADN. Sa sainteté n'aime pas trop ça. »
Un trait d'humour un peu déplacé, pensa Zach. Il avait hésité à l'introduire dans le script. Les deux autres se regardèrent et grimacèrent.
« Assez perdu de temps, » conclut Zach en quittant la pièce. « En dehors de cette pitoyable affaire, vous êtes tout de même payé pour faire le ménage, non ?»
Zach savait qu'il n'avait aucune chance de sortir de la Bibliothèque apostolique Vatican pendant la nuit. Alarme, gardes, chiens, les bâtiments étaient aussi surveillés que les appartements du pape. La ventouse glissa dans la main de Zach. La perspective de passer encore 6 heures dans le réduit de l'étagère lui paraissait désormais presque douce. Il lui suffisait de penser à la carte mémoire cachée dans la doublure de sa poche. Le secret le mieux gardé du Vatican tenait sur un rectangle d'1 cm², épais d'1 mm. L'ultime étape de son plan reposait sur l'hypothèse que ni Eugenio ni Guido ne parleraient à quiconque de cette affaire avant le rendez-vous de 10 heures. Ils quittaient leur service vers 6 heures du matin. La bibliothèque ouvrait au public à 8:45. Il lui suffirait alors de sortir discrètement, de se glisser parmi les universitaires matinaux et de quitter rapidement la bibliothèque. Avant de tirer la porte de chaîne sur lui et d'entrer à nouveau dans la nuit, Zach fut parcouru d'un frisson. Cette aventure ne faisait que commencer, il en était conscient. La course-poursuite était engagée. Il avait appris quelques jours auparavant l'effroyable massacre dans la cathédrale arménienne Saint-Etchmiadzin. Les tueurs étaient à la recherche des fragments de l'Arche, des extraits du récit d'Enoch sans doute aussi, des preuves, de toutes les preuves. Ils étaient nombreux, puissants, déterminés. Lui était seul, contre une armée. La partie allait maintenant se jouer simultanément dans différents points du monde, partout où une part du secret de Noé était dissimulée. À Kaliningrad, à Hong Kong, au Nakhitchevan bien entendu, à Melbourne aussi, à Palerme, à Paris, et dans quelques jours, à Bordeaux. Avant même d'être sorti de cette prison de poussière, il se força à penser à la prochaine étape, le musée d'Aquitaine. Zach ne pourrait pas être partout, mais à Bordeaux au moins, il devait être présent, avant eux. Mont Arara, 4372 avant Jésus-Christ, automne. Otec cassa la branche en deux morceaux, un long et un court, puis les enfonça dans la neige, légèrement inclinés pour que les deux segments de bois se croisent en formant angle droit. Le vent de la montagne faisait voler la neige en bourrasque. Les traces de pas d'Otec s'effaçaient presque aussitôt derrière lui, comme s'il marchait dans une rivière. Les branches permettraient de retrouver son chemin vers la grotte. Otec huma l'air glacé. Il avait longtemps hésité à sortir. Il faisait trop froid pour chasser, mais ses enfants, Aloum, Ghana et Bilik, n'avaient pratiquement plus rien à manger. Sa femme, Mashka, n'avait presque plus de lait pour le bébé. À ses côtés, les quatre otaient, les poils blancs de neige, humant toute trace de vie du museau, toute trace de vie à tuer, pour qu'eux-mêmes survivent. Otec leva les yeux. Ses ancêtres lui avaient montré jusqu'où s'étendait leur territoire. Parfois plus bas, mais jamais plus haut, jamais vers le sommet. Ici, Otec connaissait chaque dieu de la nature. Il avait appris à les apprivoiser. Otec se baissa, accueillit un flocon dans le creux de sa paume et le regarda briller malgré l'absence totale de soleil. Otec savait que parfois, les étoiles du ciel tombaient sur la terre. Elles restaient, puis elles disparaissaient, et d'autres dieux surgissaient, de sous la terre, plus puissants encore. Des cheveux verts des dieux, capables de respirer et de se nourrir sans même se déplacer, sans chasser, sans tuer. Tels étaient ces dieux, et Otec les respectait. Mais il savait aussi que plus haut existaient d'autres monstres. Seuls les oiseaux pouvaient les voir. Otec ne connaissait de ces monstres que les immenses langues blanches qui descendaient sur les côtés de la montagne, d'une force telle qu'elles pouvaient briser en deux les plus épais rochers. Ces langues rampaient sur leur territoire sans même qu'on les voie avancer, pour y dévorer la vie, pour les prendre au piège et les hisser jusqu'à la bouche du monstre. Il fallait se méfier, même si les langues blanches étaient lentes, très lentes. Leka s'arrêta soudain. Elle avait flairé quelque chose. Otec ne se précipita pas. Il disposa avec calme deux nouvelles branches croisées. Quoi qu'il arrive, il devrait retrouver son chemin. Et s'il ne revenait pas, les branches aideraient son fils Bilik à suivre son chemin. Otec venait de repérer des traces dans la neige, des traces d'ours. Il serra entre ses mains la lance de bois taillée. Otec fit signe à Leka de rester en retrait. L'ours se tenait devant lui, énorme, haut de deux fois sa taille. Lui aussi avait faim. C'était sa chance, pensa Otec. L'ours attaquerait le premier. Otec enfonça sa lance dans le sol, incliné. Il savait qu'il n'aurait pas la force de lutter contre l'animal. Tout alla très vite. Leka sauta sur un rocher au-dessus d'eux. L'ours chargea, sans même voir le pieu pointé entre lui et sa proie coincée entre les rochers. La lance s'enfonça dans la chair de l'animal, à hauteur de sa poitrine. Il grogna, mais pourtant continua. Immédiatement, Otec comprit. D'ordinaire, l'ours se serait enfui, emportant avec lui le pieu planté dans son cœur. Otec aurait suivi ses marques de sang, aurait pisté l'animal à distance jusqu'à ce qu'il tombe pour ne plus se relever. Pas cette fois. L'ours n'avait rien mangé depuis des jours. La faim était plus forte que la douleur dans sa poitrine. Il sentait l'odeur de chair au bout de ses griffes, plus proche à mesure que la lance traversait son corps. L'ours était condamné. Lui ne le savait pas. Otec, si. Lui aussi allait mourir. Il ferma les yeux pour revoir une dernière fois sa fille, la jolie Ghana, son fils Bilik, trop jeune pour s'occuper de la famille comme un homme devait le faire, et Mashka, bien entendu, la douceur de la peau de Mashka. Il la sentait contre lui, comme une interminable caresse, lorsque le coup de griffe lui déchira la moitié du visage. Un autre, presque simultané, planta cinq flèches dans son ventre. Ainsi, c'est cela mourir. L'ours titubait devant lui. La bête le fixa un long moment, comme si elle ne parvenait pas à comprendre comment un être aussi inoffensif avait pu lui faire autant de mal. Puis, doucement, la lumière dans les yeux de l'ours s'éteignit. Otec savait que les deux petites étoiles qui illuminaient le regard de l'ours allaient rejoindre le ciel, tout comme les siennes, un peu plus tard. C'était ainsi. Les vivants devaient quitter la terre pour peupler le ciel. Un jour, dans très longtemps, lorsqu'il y aurait eu des morts et encore des morts, le ciel ne serait plus qu'un champ entier d'étoiles, aussi nombreuses et serrées que les fleurs dans les champs. Alors, la nuit n'existerait plus. Les paupières de Tek pesaient plus lourd qu'une pierre. Il trouva la force de donner l'ordre à Leka de retourner à la grotte. Son fils Bilik pourrait sortir, suivre ses repères de bois, trouver le cadavre de l'ours. Tous pourraient manger pendant plusieurs lunes. Tout était bien. Otek sentait le sang tiède couler contre sa peau. Jamais depuis le temps de la mort des feuilles, il n'avait eu aussi chaud. Il ferma doucement les yeux. Il allait pouvoir rejoindre les autres étoiles, celles de l'ours, des loups et des oiseaux, vivre avec elles en paix, jusqu'à la fin de la nuit.